Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spiritualista. C'est parti pour cette saison 4 de ton podcast initiatique Spiritualista. Cette saison 4 sera sous le signe de la spiritualité badass pour accompagner la sortie de mon livre qui sortira en février aux éditions Erol. Alors là, je suis accompagnée d'une femme exceptionnelle. Bon, je vous plante le décor, on est à Bali. Ce matin, j'ai quitté Ubud pour la rejoindre pas loin de Canggu. On est dans sa chambre, j'ai la vue sur la mer, sur les rizières. Bref, c'est fabuleux, j'ai l'impression d'être rentrée dans son tableau de visualisation. Je l'adore, c'est une source d'inspiration sur plein de niveaux, aussi bien sur le wellness, le bien-être, le business, son mindset de l'abondance, son esprit libre, sa façon de déconstruire beaucoup, beaucoup de choses. Elle est coach, coach from the heart, c'est la coach des coachs. Elle a été naturopathe, elle est toujours naturopathe, elle est auteure d'un bouquin génial que j'ai hâte de lire, Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Elle a aussi un podcast, Live from the heart. Mon invitée aujourd'hui pour ouvrir cette quatrième saison, c'est Anne-Claire Méret. Salut Anne-Claire.
Coucou Amel, je suis super émue. Je vais peut-être pas pleurer de... Merci beaucoup, je suis très touchée et merci d'être venue jusqu'à moi et pour ton invitation. Et bravo pour ce que tu fais, pour tout ce que tu fais pour le monde, c'est juste magique et magnifique. Très heureuse d'être à tes côtés.
Je suis ravie Anne-Claire et je te disais que j'ai vraiment l'impression là, d'être rentrée dans ton tableau de visualisation. Tu vois, grandeur nature, je suis rentrée dans cette belle maison, j'ai été accueillie par un homme délicieux,
n'est-ce pas?
Et toi, tu es fabuleuse, tu as un glow génial parce que voilà, t'es une femme épanouie. Justement, ces règles de manifestation, est-ce que c'est des choses qui ont du sens pour toi, que tu as appliquées dans ta vie?
Ah oui, complètement. Mais ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Parce que je pensais au début que c'était un peu de la pensée magique, tu vois, que si tu penses magiquement, les choses arrivent. Et sans forcément passer à l'action et sans forcément travailler sur tes blocages. Donc j'ai dû apprendre à travailler sur mes blocages, apprendre à passer à l'action même si j'avais peur, tout en continuant à nourrir la pensée magique. Et le tout en même temps, ça fait qu'aujourd'hui j'ai cette vie qui est juste... Waouh, ouais. J'aimerais que vous puissiez voir la vue, peut-être qu'on prendra une photo qu'on
oui,
pourra publier au même moment.
Totalement, on fera ça. Oui, je suis complètement d'accord avec toi parce que la loi de l'attraction, dans attraction, il y a action. Tu vois, dans le mot lui-même. Et justement, comment t'es arrivée, toi, à déjà, dans un premier temps, remettre en question ton ancien système, tu vois, te dire « Ah là, je me sens plus assez épanouie, enfin, je me sens pas bien. » Parce que c'est toujours ça, le point de départ, en réalité. Et ensuite, trouver où était ta place, juste.
Pour moi, c'est venu d'un espace de souffrance. Je l'ai pas fait pour aller chercher ma joie. Je l'ai fait parce qu'il y avait trop de douleur. Il y avait de la douleur physique, émotionnelle, psychique, il y avait vraiment à tous les étages, tu vois. Et c'était tellement difficile qu'il a fallu que je travaille dessus parce que je ne pouvais pas vivre comme ça. Il y avait trop de souffrance. Donc j'ai travaillé d'abord pour régler mes problèmes d'insomnie, mes problèmes d'anxiété. Et puis j'ai perdu mon boulot et donc j'ai été obligée de me réinventer, en fait. Et donc pour moi, ça s'est fait, je dirais, tu vois, par la voie difficile, pas par la voie légère et joyeuse et uplifting au début.
Ouais.
Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, j'ai compris. Et je dis souvent d'ailleurs à l'univers, je lui dis, avec aisance et fluidité, montre-moi la prochaine étape avec aisance et fluidité, ouais, sans passer par la souffrance. Et ça marche plutôt pas mal.
Oui, ça me fait penser... En fait, le fait de demander with grace and ease, tu vois. Ouais. J'avais un ami, avant de faire l'ayahuasca, il m'avait dit surtout, n'oublie pas de demander à la plante to be gentle with you, d'être douce avec toi. Et je me rappelle que la seule fois où j'ai oublié de le dire, eh ben, ça a fait mal. Donc, c'est vrai que c'est bien de demander ça, en fait. Parce que souvent, on est impatient, on a envie que les choses aillent vite, que ça se débloque vite. Mais qu'en fait, les choses se font comme des respirations, tu vois, naturellement. Et est-ce que toi, t'as ressenti dans le processus, tu vois, cette impatience-là? Ou alors, est-ce que tu avais toujours confiance au processus, à ce qui se déroulait?
J'avais pas du tout confiance.
C'est vrai?
Non, j'avais super peur. Moi, j'étais une grande peureuse. Et donc, j'étais très impatiente, j'avais envie que la vie me prouve que j'étais sur le bon chemin à chacune des étapes. Ça a été très difficile.
Mmh.
Et ça a été de moins en moins difficile avec les années. Donc, je voudrais rassurer les personnes qui écoutent et qui sont sur un chemin de transformation de leur vie, suivre davantage leur cœur, choisir des relations qui leur correspondent mieux, des métiers qui leur correspondent mieux. S'ils ne voient pas tout de suite les résultats, c'est pas grave, continuez. Vous allez voir, ils vont arriver. Et c'est OK d'être impatient, c'est OK d'être frustré, c'est OK d'être en colère et d'avoir peur. Et finalement, ce que j'ai appris à propos de moi, c'est que tout ce que je pouvais ressentir, c'était de la matière pour travailler sur mes blocages intérieurs.
Ouais.
Et donc maintenant, quand je suis frustrée, quand j'ai peur, quand il se passe des choses, des nœuds... Par exemple, là, j'ai emménagé dans cette nouvelle maison il y a une semaine exactement, c'était mardi de la semaine dernière. Et vendredi et samedi, j'étais pas bien. Quand je me suis levée le matin, j'ai pleuré. Alors, on peut se dire que c'est quand même dingue, c'est très beau et j'ai beaucoup de chance et tout ça, mais... En fait, c'est un gros réajustement parce que j'ai déménagé plus de 10 fois en 2 ans. Et maintenant, on est loin de la ville. Et donc, il y a la frustration parce que je ne conduis pas de scooter. Donc, je peux juste aller là où je peux aller en vélo. Et sinon, il faut que je commande des taxis, ce qui est gérable. Hein. Mais c'est juste cette frustration de ne pas avoir cette liberté que j'avais pendant 5 mois à Ubud. Voilà, c'est apprendre à accueillir les frustrations, les peurs, l'inconnu aussi. Parce que c'est l'inconnu.
Exact.
Je sais que je vais rencontrer beaucoup de nouvelles personnes ici, mais je ne les connais pas déjà. Alors forcément, il y a des frustrations et il y a des peurs. Donc j'ai regardé tout ça en face et j'ai remercié pour les cadeaux de ces frustrations parce qu'en fait, c'est de la matière pour travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand je suis occupée à travailler sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, bah du coup, je ne suis plus impatiente.
Ouais.
Je suis occupée parce que j'ai envie de voir ce qui est là. En fait, je shift ma perception en invitant la curiosité.
Waouh. Non, ça fait du bien d'entendre ça. C'est vrai que quand on est au milieu, voilà, tu décrivais cet épisode où ça ne va pas, en fait, et où tu laisses les choses venir et où tu ne comprends pas vraiment pourquoi ça ne va pas, mais tu le ressens en toi, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas régulé, en réalité. Comment on peut s'y prendre concrètement pour être dans l'accueil et aussi dans cette espèce de lâcher prise, de laisser monter l'émotion, la vivre et ok, se dire, bon, à partir de là, comment je peux aussi utiliser la raison pour calmer un petit peu, tu vois, mon système nerveux là qui craque.
Il y a plein d'outils. Après, il faut voir ceux qui vous parlent le plus. Moi, j'adore l'EFT. Donc, j'ai tapoté en EFT avec des vidéos sur Internet. Mon go-to, c'est en anglais, c'est Brad Yates.
Okay.
Je l'adore. Yates, ça s'écrit Yates. Il est génial. Il a des centaines de vidéos sur l'EFT, sur YouTube. Très, très généreux. Vraiment un grand homme.
Génial.
Et puis, la respiration. Juste prendre le temps d'être, de se poser, de ressentir ce qu'on a à ressentir, respirer tranquillement. Moi, la nature m'aide énormément aussi. Tu vois, ici, je suis allée plusieurs fois à la plage toute seule. J'ai emmené un cahier. Et puis, voilà, j'ai marché les pieds dans l'eau. J'ai écrit dans mon cahier comment je me sentais. Et puis, je me suis laissée vivre les émotions, en fait.
Ouais.
C'est ça. Tout en me rappelant que tout passe. Et qu'elles étaient là juste pour me traverser. Et que si je m'y attache pas, comme une moule à son rocher, tu vois. Alors, si je m'y attache pas, elles vont inévitablement repartir.
Ouais.
Donc, c'est juste... Oui, juste laisser le processus se faire finalement.
Et quand on traverse justement, tu vois, cet épisode de remise en question de sa vie, de ses relations, de qui on est en fait, et qu'on a envie d'évoluer, d'après toi, Anne-Claire, est-ce que c'est important d'être accompagnée, d'être coachée pour vivre ce moment-là?
Vous ne me voyez pas, mais je hoche la tête. Oui, oui, oui. C'est même essentiel, en fait. Moi, j'en serais pas du tout là dans ma vie si j'avais pas eu des thérapeutes et des coachs, mmh. et si j'en avais pas encore, en fait.
Oui.
Parce qu'on peut pas voir dans nos angles morts. Il y a vraiment besoin de ce miroir qui nous tende avec bienveillance, avec beaucoup d'amour, bien souvent, mmh. pour nous aider à voir, en fait, des choses de nous qu'on n'arrive pas à voir tout seul. Et puis, mine de rien, nos principales blessures, elles ont pris naissance dans le relationnel. C'est parce qu'on a été blessé avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos professeurs, avec nos premiers amoureux, etc., qu'on porte des poids dans la vie. Et c'est à travers le relationnel, je trouve aussi, qu'on répare. Et c'est pour ça que je trouve ça important d'avoir des thérapeutes qu'on garde aussi sur la durée.
Oui.
Parce qu'avec ces gens-là, on vient retisser, en fait, on vient penser nos blessures et vraiment adoucir nos cicatrices et ça répare énormément sur la durée. Donc gratitude à tous les gens qui m'ont accompagnée et qui m'accompagnent toujours parce que ça me donne beaucoup de force.
Absolument. Et je reçois souvent cette question, comment reconnaître un bon thérapeute, un bon coach pour soi?
Ça dépend ce qu'on cherche. Si on cherche un mentor, on va choisir quelqu'un qui a vécu ce qu'on a envie de vivre. Par exemple, si on a envie d'écrire un livre et qu'on procrastine depuis 5 ans et qu'on se dit « mais quand est-ce que je vais écrire mon livre? Il est dans mes cahiers et tout, j'y arrive pas. » J'aurais tendance à dire « choisissez un coach ou un thérapeute, quelqu'un pour vous accompagner qui a déjà écrit des livres, qui connaît déjà le chemin. » Après, ce n'est pas nécessaire pour toutes les voies. On peut aussi choisir quelqu'un qui est extrêmement doué dans ses compétences d'accompagnement, qui n'a pas vécu la même chose que nous. Par exemple, si on choisit un coach, je prends l'exemple souvent des coachs professionnels, des coachs sportifs.
Oui.
Les coachs sportifs, ils n'ont pas forcément tous et toutes eu des super médailles. Mais ils ont les compétences pour accompagner les gens qui vont aux Jeux Olympiques. Donc, vous pouvez tout à fait trouver des coachs qui sont extraordinaires, qui eux-mêmes n'ont pas fait le chemin. Par exemple, j'ai une coach qui est géniale au sein du mastermind de Regan Hillier. Elle s'appelle Robin. Robin, elle n'a pas de vie publique, par exemple. Elle n'a jamais développé son compte Instagram,
ouais.
une base de données pour des newsletters, etc. Parce qu'elle est coach support dans la team de Regan. Par contre, elle est excellente pour me montrer là où moi, je me cache, là où c'est difficile pour moi d'aller me montrer davantage, etc. Donc, elle est une excellente coach sportive pour m'aider à gagner des médailles.
Wow.
Donc, moi, j'ai envie de dire essayer, rencontrer les coachs, les thérapeutes, parce que c'est seulement en les rencontrant que vous allez sentir leur énergie et voir si c'est la bonne personne pour eux, pour vous. Et souvent, les premières séances sont gratuites. Il y a souvent des appels découvertes pour vraiment se sentir, pour voir si c'est juste. Et faites confiance à votre intuition. Et il y a toujours quelque chose de bon à prendre de toute façon dans un accompagnement.
Il y a quelque chose, je ne sais plus si c'est toi qui l'avais dit dans un épisode de ton podcast, Live from the Heart. Tu disais que tu observais quels étaient les accompagnants, les coachs, les personnes que tu admirais. Est-ce que c'est toi ou pas? Ou peut-être que je fais un remix? Ou c'est peut-être une idée qui m'est venue en t'écoutant? En fait, je me disais, parce que je me suis rendu compte que toi et moi, on était accompagnés par Pierre-Antoine Catrice, que j'ai présenté dans l'épisode 5 du podcast. Et ah oui, c'est ça, je pense que c'est plus une réflexion que je me suis faite en t'écoutant. Et j'étais hyper heureuse de me dire, oh, j'ai ce point en commun avec Anne-Claire, parce que je l'admire, j'admire son parcours, ce qu'elle est capable de faire, le fait de briser pas mal de croyances limitantes et de vivre sa vie de femme libre, en fait, dans ce monde qui fait tout pour qu'on ne le soit pas, tu vois, je trouve ça assez révolutionnaire et badass. Et en fait, de sentir cette connexion, de me dire que, ah, waouh, on partage le même thérapeute, ça veut dire que quelque part, dans cette expansion de conscience, on a quelque chose en commun, mais ça m'a vachement fait kiffer, en fait. Et est-ce que pour toi, c'est un peu la même chose? Est-ce que parfois, quand quelqu'un t'inspire, t'essayes de comprendre, de savoir quel chemin elle a emprunté, quel guide elle a rencontré pour éventuellement se connecter à sa vibration?
Oh là là, oui, tout à fait. Il y a un an, Un peu moins d'un an, j'ai fait une séance d'une journée entière de coaching avec Royal Shaman, parce que c'était la chamane, la coach de Manifestation Babe.
Oh,
et j'aime beaucoup l'énergie de Catherine Zenkina.
Mais j'écoute ce podcast depuis que tu en as parlé dans le tien, et c'est vrai que c'est hyper nouveau pour moi d'entendre en fait ce rapport à l'abondance, à l'argent, qui est hyper décomplexé. Et j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça vient déstructurer beaucoup, beaucoup de choses en réalité.
Oui, tout à fait. Donc, il y a eu ça. En ce moment, je travaille avec Céline D'Acosta. C'est ma nouvelle coach. Elle est américaine-italienne, mais elle vit à Bali. Et je l'ai choisie parce qu'il y a eu des synchronicités. Et après, je suis allée regarder son site. Et j'ai vu qu'elle avait aussi coaché Catherine Zenkina.
Ah oui.
Et Sorel Amor, que j'adore, qui est vraiment au niveau de la souveraineté financière aussi. Mais vraiment différentes énergies. Voilà, vraiment deux énergies différentes avec Catherine Zenkina. Et plus récemment encore, j'ai suivi un programme qui s'appelle Self-Published de Amanda Frances.
Oui.
Et c'est pour apprendre à autopublier des livres et en faire des succès. Et donc, j'ai choisi l'éditrice de Amanda Frances pour corriger mon livre qui va sortir dans quelques mois.
Ah, c'est énorme.
Donc, voilà, si on me recommande, si je vois que des personnes sont chaleureusement recommandées, je vais leur demander si elles sont dispo et si elles veulent bien travailler avec moi. Et j'y vais. Parce que ça me rapproche, tu vois, un pas de plus vers ce que je veux créer pour ma vie aussi.
Ça me donne des frissons, en fait, parce que ça semble tellement logique, en réalité, tu vois. C'est hyper intéressant, genre c'est comme si tu prends le shortcut, en fait.
C'est ça. Mmh. Et tu sais, c'est passé beaucoup de doutes, parce que je me suis dit, ah, mais est-ce que je peux demander à cette éditrice? Est-ce qu'elle va m'accepter? Est-ce que, comme Amanda Frances l'a déjà recommandé dans son programme, il doit y avoir des centaines de personnes qui lui demandent? Peut-être qu'elle est complètement out of reach, tu vois,
ouais.
Et qu'elle ne me choisira pas. En plus, je suis francophone, mon livre va certainement être plein de bourrées de fautes à cause de mon anglais. Et en fait, elle a tout de suite dit oui.
Ouais.
Donc, c'est fou les barrières qu'on se met en se disant, c'est pas pour moi parce que c'est trop loin. Mais en fait, pas du tout, c'est pas si loin que ça.
Ouais, c'est hyper inspirant. Et donc, justement, tu es en train de finaliser là. Il est fini, ton livre en anglais. Parce qu'hier, je t'ai vu en story, tu étais en train de le timer.
Il est fini.
À l'oral, ouais.
Il est fini. J'ai des choses à revoir au niveau du chapitre 9, qui est le dernier chapitre.
Ok.
Et puis après, c'est vraiment des petits détails, mais ça y est, on est sur la fin.
Donc, c'est un livre sur le sujet de l'abondance.
Oui.
C'est ça.
Et il s'appelle Millionaire from the Heart.
Donc, ce livre en anglais sur l'abondance, Anne-Claire, l'abondance, c'est vraiment un sujet que tu incarnes hyper bien. Mais pas seulement sur le succès professionnel, tu vois, l'argent que tu as généré cette dernière année, tu vois, tu as dépassé le million. Et c'est extraordinaire, en fait. Ça, c'est vraiment un goal ultime, je pense, quand on est entrepreneur, surtout dans le domaine du wellness, parce que souvent, il y a ce tabou autour de l'argent, on en parlera tout à l'heure, sur le développement personnel, le bien-être, la peur de devenir un pseudo-gourou. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'idées, de croyances limitantes autour de tout ça, qu'on en discutera. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu incarnes l'abondance, mais pas uniquement financière. L'abondance dans les partages, l'abondance, là, récemment, avec le fait d'exprimer ton amour. Comment on dit en français, en relation libre, c'est ça? D'être en relation libre et le fait d'en parler, mais sans t'excuser, en fait, simplement, j'ai trouvé ça tellement badass, hyper... tu vois, je cache pas qu'à un moment donné, moi, mon mental était un peu choqué parce que je découvre l'épisode où tu nous dis, voilà, que tu vas te fiancer et tout ça. Et genre, une minute après, tu dis, mais j'ai un autre amoureux. Donc pour moi aussi, c'est l'abondance. Et tu sais, ça m'a beaucoup fait réfléchir, Anne-Claire, je me suis dit... C'est vrai qu'on ne dit pas non à l'amour, en fait. Anne-Claire, d'après toi, c'est quoi les plus gros blocages qu'on peut avoir face à cette notion d'abondance?
Alors, il y en a plein. Mais je dirais que le principal, c'est que souvent, quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on a des difficultés financières, on ne se met pas dans la même catégorie que les gens qui ont de l'argent. C'est-à-dire qu'on croit qu'on n'est pas fait du même bois, qu'on est juste différent. Tu vois, qu'on a moins de chance, que je sais pas, qu'on n'est pas né sous la même étoile, tu vois, qu'on n'a pas grandi dans les mêmes circonstances. Et donc on crée une séparation, et cette séparation, ça fait que ça permet à des jugements d'émerger. Et comme on a des jugements, après ça se transforme en croyances. Et après on a comme pas envie de changer, on a envie mais pas suffisamment, ou ça vient confronter en fait des choses en nous qui ont du mal à s'harmoniser à l'intérieur et on a du mal à quitter cette identité qu'on s'est créée. Je dirais que c'est ça en fait le principal.
Oui.
Et quand on arrive à comprendre qu'en fait il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a de l'abondance et quelqu'un qui n'en a pas, à part le mindset et les actions qui ont été mises en place, on se rend compte qu'en fait tout le monde est capable d'y accéder. Et c'est un travail de tous les jours et à tous les paliers. Parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille encore maintenant, malgré le fait que j'ai généré 1 million d'euros de ventes l'année dernière.
Tu te surprends sur quel type d'action à dire « Oula, c'est pas le bon mindset là ».
Par exemple, moi je sais très bien maintenant gagner de l'argent avec mes activités d'accompagnante, avec mes programmes en ligne, avec tout ce que j'ai créé. Par contre, je sais pas encore générer beaucoup d'abondance avec l'écriture des livres, parce que je gagne un peu d'argent avec l'écriture des livres, mais pas beaucoup. Donc j'ai tendance à me mettre pas dans la même catégorie que les auteurs à succès, même si j'ai un best-seller qui est La naturopathie pour les nuls.
À fond, oui.
Et puis, je suis pas encore un investisseur. Donc en fait, je n'ai pas encore investi par exemple dans l'immobilier, je ne possède rien en physique. Je crois que ce que j'ai de plus cher, c'est mon ordinateur en fait. Tu vois. Donc ah non, on a acheté un non, bah non, on n'achète même pas le scooter, tu vois.
Donc ça reste l'ordinateur.
On a choisi de louer. Donc ça reste l'ordinateur. Donc pour moi, c'est l'étape suivante. Pour moi, les gens qui ont créé des projets en physique, qui ont des lieux de soins, comme moi je veux créer aussi avec The Love Sanctuary, oui, avec mes amis, c'est vraiment l'étape d'après. Donc c'est raccourcir ce gap que je mets entre moi et les gens qui ont investi dans la pierre, dans des terrains, dans des lieux physiques, dans des lieux de transformation et devenir cette personne qui le fait aussi.
Spiritualista. Et là, tu te projettes, ben, je sais que voilà, vous êtes en train de développer avec tout ton crew ce Love Sanctuary, le sanctuaire de l'amour, qui sera ici à Bali, c'est ça ?
Qui sera à Bali.
Ouais, tu projettes la Anne-Claire du futur. En 2000, combien s'est réalisé justement cette
L'année prochaine.
Donc c'est très très court en réalité.
C'est très très court.
C'est déjà dans les tuyaux. Et ça sera quoi le prochain goal du coup dans ta vision d'abondance absolue ? Ça sera de faire vivre cet espace, d'accueillir des gens et de générer de l'argent. Et je sais que tu as aussi dans ta vision l'envie de faire vivre aussi les gens du village autour, de vraiment créer une communauté.
Tout à fait, on va créer des emplois grâce à cet espace qu'on va créer ensemble. Et on va développer en fait le petit village qui est là parce qu'il y aura accès à une très belle cascade. Et donc ça va permettre aussi aux gens du village de gagner de l'argent en vendant des tickets pour aller à la cascade. Et puis aussi, donc à Bali, il y a aussi des gros problèmes de pollution.
Oui.
Et donc on veut aussi créer la possibilité de nettoyer en fait tous les alentours pour pouvoir contribuer aussi à cette île qui est extraordinaire, qui attire beaucoup de touristes, mais qui attire aussi beaucoup de pollution parce qu'ils ont du mal à gérer leurs déchets.
Mais oui. Alors pour revenir sur le topic de l'abondance, qu'est-ce que ça a changé pour toi, concrètement, le fait de devenir abondante ?
D'abord, j'aurais envie de dire que l'abondance attire l'abondance. C'est-à-dire que plus j'ai d'abondance dans ma vie, plus j'ai d'abondance dans ma vie. Ce qui est quelque chose que je trouvais très injuste avant quand j'en avais pas. Je me disais, waouh, c'est fou, les gens qui sont riches, ils sont de plus en plus riches. Et maintenant que je suis de l'autre côté, je me dis, mais c'est une évidence. Parce qu'en fait, comme je sais comment ça marche, je suis capable d'en générer plus, en fait. Et j'ai pas peur que ça s'arrête parce que je sais que ça vient de moi, en fait. Et ça vient de ma façon d'être au monde. Et donc, je suis capable de générer toujours plus d'opportunités d'avoir de l'abondance sous toutes ses formes, pas forcément sous la forme financière. Ça peut être aussi des cadeaux, des invitations, des opportunités et l'amour, comme tu parlais tout à l'heure. C'est vraiment une question de mindset, de il y a toujours assez. Il y a toujours suffisamment et il y a même plus qu'assez, en fait, ça déborde. Et c'est très agréable de vivre dans cet espace-là. Et vraiment.
Ben, là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui se disent « Ok, mais comment on fait ?»
On travaille sur ses croyances et sur les histoires qu'on se raconte à propos de soi et à propos de la vie. Je vais donner un exemple très concret. Donc, tu disais tout à l'heure que j'ai un autre compagnon que j'ai eu la joie de rencontrer au mois de mai. Et puis, on s'est mis ensemble, c'était fin juin. Parce que donc, quand on est en relation ouverte comme ça, il y a des règles, des accords relationnels qui sont tissés avec nos partenaires. Et donc, Christian, il était hors de question que je bypass Christian. Donc, en fait, il a fallu qu'on se pose 25 pages de questions pour revoir nos accords relationnels avant
vraiment,
de faire la
c'était
relation.
25. Ah oui,
ça a pris des semaines
wow.
avant qu'ils disent oui, ok, c'est bon, tu peux aller à un date avec lui.
Ouais, c'est un vrai contrat moral et amoureux et c'est un vrai engagement. On reste dans l'engagement, mais on ouvre un petit peu plus. Donc, du coup, il faut poser les choses.
Ça demande beaucoup de travail. Donc, pour les gens qui sont intéressés par ça, c'est vraiment puissant parce que ça demande d'expliciter absolument tout et de pas implicitement se dire ah, ça devrait être comme ça. Mm-hmm. En fait, il n'y a rien qui est laissé à l'implicite. Et c'est juste extraordinaire de vivre ça parce que ça crée un niveau d'intimité qui est beaucoup plus profond et de confiance. Et finalement, quand on crée cette intimité et cette confiance, il y a beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de joie, mm-hmm. je trouve.
C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce que je perçois en toi, je sais que t'es une femme libre, donc une femme rebelle, un esprit libre, tout simplement. Et là, voilà, cette saison 4, j'ai envie d'interroger des personnalités qui incarnent cette spiritualité badass. Et là, quand tu parles du fait d'être en relation comme ça, ouverte, souvent les gens utilisent la formule « sortir de la matrice » et pensent que c'est seulement un petit, tu vois, une petite zone en fait. Et là, toi, tu pousses encore plus les parois parce que se déconditionner de la croyance qu'on a du couple à deux, et puis c'est tout, et puis c'est très bien comme ça, toi, t'arrives et tu dis « fuck that shit, pour moi, je veux plus, et j'aurai même plus, en fait, et tout sera ok ». Comment ce truc a grandi en toi ?
C'est arrivé il y a 5 ans maintenant, parce que quand j'ai rencontré Christian, moi, je voulais être monogame avec lui. Donc, je l'ai manifesté à Ubud, à une ecstatic dance, à Yoga Barn, un dimanche matin. Et puis, on s'est mis ensemble quelques jours après dans une magnifique cérémonie cacao, ecstatic dance, dans un autre endroit. C'est vraiment le rêve ouboudien.
Mais oui, c'est ça.
Et puis, au bout de quelques jours ensemble, il devait continuer son voyage, aller en Thaïlande et tout ça. Et moi, je devais revenir en Europe pour mes études, que je continuais à l'époque. Et il m'a dit qu'il n'était pas prêt. Parce que pendant son voyage, il avait une disponibilité de 3 mois pour voyager. Et il avait rompu avec sa compagne à ce moment-là, pendant les 3 mois. Et ils vivaient ensemble et tout. Donc revenir à la maison, ça voulait dire séparer les affaires, déménager. Et puis digérer la relation. Mmh. Et donc il a demandé et en fait, il m'a carrément dit qu'il ne pouvait pas, qu'il n'était pas prêt.
Okay.
Et il a pris 8 mois pour revenir vers moi. Mais il ne m'a pas promis de revenir vers moi. Donc pendant ce temps-là, moi, j'ai continué ma vie. Et au bout de 4 mois, j'ai rencontré quelqu'un d'autre en Thaïlande, à Pai, Matthew. Et Matthew était en relation avec quelqu'un d'autre. Mais pour lui, ce n'était pas un problème parce qu'il était en relation libre.
Okay.
Et c'était ma première fois avec quelqu'un en relation
Et comment
relation
ça
ouverte.
S'est passé pour toi, du coup ?
Bah, je me sentais très proche de lui. Et puis, au bout d'un moment, super proche, genre, au point d'avoir envie de lui faire des câlins et tout. Et je lui ai dit, bah oui, mais c'est pas possible, en fait. Il y a quelqu'un dans ta vie. Et là, il me dit, bah oui, j'ai quelqu'un, mais en fait, ça change rien, parce que c'est possible. Et là, il m'a expliqué.
Oui.
Et pour moi, j'étais sur le cul, parce que, en fait, ce que j'en avais vu, c'était beaucoup des choses un peu volage, tu vois. J'avais cette image des relations ouvertes, un peu volage, tu peux faire ce que tu veux, t'as comme une carte blanche, tu peux coucher avec qui tu veux, c'est sans trop de règles, où on se fait du mal, et enfin, tu vois.
Avec des cachotteries, un peu de manipulation, avec quelque chose de pas très sain, quoi.
Et voilà, je jugeais un peu les gens qui étaient en relation libre comme étant un peu des personnes légères, disons-le. Mais j'avais de la curiosité pour ça, parce que j'étais intéressée par les choses de l'amour, et j'avais été blessée précédemment. Et je comprenais pas pourquoi j'avais remis mon pouvoir à l'extérieur et dans des règles et dans des croyances, etc. Donc j'étais déjà dans cette démarche de m'interroger sur pourquoi ça fonctionnait pas exactement comme je souhaitais que ça fonctionne. Donc j'étais ouverte à créer cette relation avec Matthew et on est restés ensemble 1 an et demi. Et Christian est revenu au bout de 4 mois que j'étais avec Matthew.
Oui.
Et à cette époque, j'étais aussi avec Jérémy. Donc Christian, quand Christian est revenu, moi je dis big up, hein, parce que il a pas eu peur.
Non, mais Edgar, j'adore. Tu sais, parfois, j'aime bien voir le monde, tu sais, un peu avec ce ratio. Mais Anne-Claire, mais t'as pris la part de certaines meufs, là, qui sont célibataires.
Parce que je partage.
Je te taquine. Non, mais c'est quoi ton secret ?
Mon secret, c'est que je suis simple. En fait, en amour, je suis vraiment très simple. Je dis ce que je veux. Et je me connais, je connais mes besoins. Et je sais aussi ce que j'apporte à une relation. Et donc, ça simplifie grandement les choses. Donc, du coup, j'ai confiance en moi.
Wow.
Et du coup, les hommes ont aussi confiance en moi. Et j'ai compris que je faisais du Prince Farming. Donc ça, c'est le concept de Alison Armstrong.
C'est génial.
C'est qu'il y a des femmes qui transforment les hommes en crapauds. Et il y a des femmes qui transforment les hommes en princes. Et donc moi, je suis vraiment une Prince Farmer. Où en fait, les hommes qui viennent dans mon champ, mais pas juste les amoureux, hein, c'est vraiment aussi les amis. C'est, ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes.
Mmh.
Ils ont envie d'être... la version d'eux qui show up, tu vois, qui est là pour moi, mais aussi pour le monde, en fait. Et sortir d'une forme de contentement, de « oh, c'est assez ». Non, non, en fait, j'ai envie de donner mon meilleur. Mmh. et ça, je le fais vachement bien. Donc...
Non, mais là, c'est une master... Je vérifie qu'on enregistre bien. C'est une masterclass, Anne-Claire.
Mais on était sur l'abondance et j'avais autre chose que je voulais ajouter tout à l'heure.
Dis-moi.
Dans le fait que donc, je suis dans cette nouvelle relation avec E, on va l'appeler E parce que je n'ai pas de vie publique avec E, parce que j'ai une vie publique avec Christian. Ça fait partie de nos accords relationnels.
Okay. Très, très bien.
Donc, j'ai remarqué quelque chose, c'est que depuis que je suis avec E, depuis le mois de juin, je nourrissais dans ma tête le fait qu'il me manque. Et donc, je me disais, ah, j'ai jamais assez de temps avec lui parce que je le vois 2 heures ici, 3 heures ici, parce que je passe rarement des nuits avec lui ou même des soirées entières pour passer plus de temps à la maison avec Christian parce que j'ai un foyer avec Christian.
Oui.
Et c'est très important pour nous deux. Et puis, à un moment, je me suis chopée, tu vois, dans ma tête. Et je me suis dit, mais c'est quoi, là, cette mentalité de manque qui s'installe dans ma tête? Et donc, j'en ai parlé avec eux et je lui ai dit, écoute, il y a un truc qui ne va pas du tout. Il faut qu'on arrête de dire qu'on se manque. Il faut qu'on nourrisse des nouvelles pensées, qu'on a toujours assez de temps à passer ensemble et on trouve toujours des solutions pour se voir. Il a dit, mais oui, mais t'as raison. Et à partir de là, il s'est passé quelque chose, en fait. À partir du moment où je l'ai décidé, où j'ai commencé à écrire des affirmations à ce sujet-là et à lui envoyer, il y a comme le ciel qui s'est dégagé. Mmh. Je me suis sentie plus légère dans mon cœur et dans mon corps et les solutions se sont dégagées. En fait, c'est comme si tout s'était ouvert. Et il faut vraiment s'attraper, en fait, quand on a des pensées comme celle-ci, dans tous les domaines. Ça peut être en amour, ça peut être en argent, ça peut être partout. Mais juste reformuler la façon dont on se parle à soi-même et dont on parle aux autres et dont on parle de la vie. Et après, ça change.
C'est hyper puissant ce que tu partages avec nous, là, Anne-Claire, parce que on sent que c'est réel, en fait, et que c'est automatique. C'est comme si tu switches complètement ton énergie comme ça. Et l'image de libérer le ciel des nuages, genre je vois vraiment deux mains comme ça qui font « Non !» en fait. Et le soleil est de retour. Merci. Merci pour ça. Et ouais, ça a vraiment du sens.
Et tu sais, tout ne repose pas sur nos épaules. C'est-à-dire que c'est pas à moi de trouver toutes les solutions sur comment je vais voir eux la semaine prochaine, surtout que maintenant on habite dans deux villes différentes, etc. Il y a d'autres choses qui sont en jeu parce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, parce qu'il peut se passer des choses dans nos vies, etc. C'est pas moi qui dois trouver toutes les solutions. Moi, je dois porter la vibration juste de « je sais qu'il y a des solutions qui arrivent et j'ai de la curiosité pour les découvrir ». Et je pourrais seulement voir les solutions si je n'ai pas, si j'ai pas les yeux bouchés par « oh, il me manque, il me manque, il me manque, il me manque
».
Et donc, là, vous pouvez transposer cette conversation dans tous les domaines ou c'est juste pour
vous.
Tous
les domaines, absolument. Mais oui, oui. Mais on envoie des pulsations, en fait. Et si tu envoies le manque, le manque, le manque, bah forcément, les nuages arrivent. Ouais. Et justement, dans dans cette position, voilà, de femme dans ce couple, dans ce trouple, quel archétype tu incarnes, toi? Quand tu te vois justement au centre, tu vois, de ces relations-là, comment tu te vois?
Écoute, Christian a trouvé le mot il y a quelques semaines parce que... Donc lui, il est en train de devenir un analyste jungien et il est accompagné par quelqu'un avec qui il travaille sur les symboles, les rêves, etc. Parce que c'est vraiment une de ses grandes passions. Il a fait plein de formations sur les rêves. Et cet analyste lui a dit, on dirait bien que ta compagne, c'est une hétéra. Je crois que c'est ça, ou Etheria, avec un H. Et ce sont les femmes en Grèce antique qui souvent étaient sans enfants et qui étaient initiatrices des hommes. et donc qui les aidaient à passer des transitions dans leur masculin pour occuper pleinement leur place. Et c'était des grandes amoureuses, des grandes femmes libres qui aident les hommes à donner le meilleur d'eux-mêmes, et pas forcément un homme, mais aussi plusieurs hommes. Et je dis ouais, tout à fait, ça me parle bien.
C'est super chouette.
Ça me parle, comme, ouais, parce comme qu'en archétype.
Plus, les terres, c'est le cinquième élément, tu vois, c'est la conscience. Donc c'est chouette d'avoir, tu vois, ce nom-là et qui va vers l'ouverture et l'expansion. Je trouve que ouais, ça matche bien. Tout à l'heure, on parlait du tabou lié à l'argent, surtout dans le milieu, voilà, du coaching, du développement personnel. Comment tu as pu, je sais que tu dois avoir t'as dû rencontrer des gens qui ont dû te mettre face à ça, le tabou de l'argent au travers de cette discipline-là. Comment tu y fais face? Qu'est-ce que tu réponds en fait?
Quel tabou? Parce que c'est ça que j'ai envie de répondre. En
j'adore.
Fait. Quel tabou? Mais celui oui. que vous avez créé dans votre tête avec vos croyances.
C'est
en fait.
Exactement ça.
Parce mais que oui, pour ça. Moi, il y en a pas en fait qu'on travaille dans le bien-être ou qu'on fasse des gâteaux ou qu'on vende des vêtements ou qu'on je sais pas ou qu'on crée des usines de recyclage de plastique. En fait, peu importe ce qu'on fasse dans la vie, à partir du moment où on est aligné sur sa mission d'âme, sur si on fait ce qu'on est venu faire pleinement avec l'expression de ses talents, pour moi, la conséquence, c'est l'abondance. La prospérité à tous les niveaux, en fait, de relationnel, rencontrer les bonnes personnes, rencontrer les bons clients qui vont se sentir attirés magnétiquement par nous parce qu'on occupe notre place. Et inévitablement, on va générer des opportunités de créer l'abondance, en fait. C'est juste logique. Et le problème, c'est que quand on est entrepreneur du bien-être, souvent, c'est parce qu'on est passionné par quelque chose personnellement. Mais ça peut être la même chose si on est prof de danse, ou ça peut être la même chose si on fait des gâteaux finalement. Hein.
C'est vrai.
Passionné par le plastique, je sais pas. Mais par l'écologie, disons.
Oui.
Si on est passionné par quelque chose, souvent on a tendance à se raconter l'histoire que c'est trop facile de gagner de l'argent pour quelque chose qui nous passionne, nous, personnellement. Parce qu'on a été habitué à se plier en quatre pour faire des jobs qui ne nous intéressent pas et qui effectivement vont nous rapporter un salaire. Donc on a associé deux idées ensemble. Je dois faire un travail qui ne me passionne pas forcément, mais qui va me permettre de me payer un toit sur la tête. Il faut juste déconstruire cette croyance en fait. Moi je pense qu'en choisissant cette voie-là, il y a comme un plafond. Mmh. Voilà, tu pourras être épanoui que jusqu'à une certaine mesure et tu pourras toucher de l'argent que à un certain niveau. Mmh. Par contre, si tu suis ton cœur et si tu vas à fond dans ce qui te passionne, tu sais pas où est-ce que ça va t'emmener.
Ouais.
Et c'est bien souvent aussi pour ça que les gens n'y vont pas. Je pense qu'ils ont pas tant peur de rater que peur de réussir en
fait. Absolument.
C'est la peur de mais jusqu'où ça va m'emmener si je suis mon cœur en fait, tu vois? Parce que ça va remettre tellement de choses en question sur qui ils sont, sur leur rapport à la vie, sur leur environnement, que finalement ils préfèrent se retenir et contenir, en fait, cette grande et belle énergie qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes.
Ouais, c'est très juste.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Oui. En fait, c'est la remise en question de tout un système et c'est laisser mourir l'ancien pour s'ouvrir vers quelque chose de nouveau, tu vois, vers l'inconnu. On en parlait tout à l'heure, tu vois, et l'inconnu, c'est l'un qui est connu. Qu'en fait, que notre conscience connaît déjà, mais faut y aller, en fait. Est-ce que toi, ça t'arrive de t'auto-pousser dans le dos, comme ça, quand tu sens qu'il y a encore des résistances, quand il y a encore des choses, des peurs, on en parlait tout à l'heure, et dire « Bon, Anne-Claire, arrête ton cinéma, allez, vas-y. »
Tout le temps.
Ouais.
Tout le temps. On parlait de mon livre, là, oui. Et donc je veux l'enregistrer en audiobook en anglais. Mais la peur que j'ai, en fait, je suis terrifiée parce que, tu sais, je bute sur les mots, j'ai peur qu'on ne me comprenne pas exactement en anglais et tout ça. Et donc, je me pousse, en fait, je me pousse dans l'eau, je suis obligée parce que je sais qu'il y a des grandes et belles choses qui m'attendent de l'autre côté, mais j'ai quand même peur.
C'est marrant parce que, voilà, tu parles anglais avec Christian. Tu voyages à l'étranger depuis très longtemps, donc tu parles anglais. Je pense que même ce que tu regardes en termes de séries, de films. Et moi, j'ai écouté tes épisodes en anglais. Et tu sais que tu m'as inspirée à faire cette saison 4, un épisode par mois en anglais.
Génial.
Et c'est grâce à toi, en fait.
Je suis contente.
Mais oui. Et donc, voilà, l'anglais, tu le maîtrises. C'est devenu ta langue, en fait. D'après toi, ça vient d'où ce petit frein, là encore ?
Je pense que c'est m'autoriser à jouer dans une plus grande cour, tout simplement. C'est ça, c'est rentrer dans une grande cour et me sentir toute petite parce que je ne suis pas native anglophone et que je vais faire des erreurs. Mais c'est marrant parce que quand je parle avec des natifs anglophones, tous ils me disent « mais t'inquiète pas en fait » parce que des anglophones, il y en a partout dans le monde et ils ont tous des intonations différentes, ils ont des expressions différentes. Et tu vas faire des erreurs, mais finalement, les gens ne vont pas forcément les interpréter comme des erreurs. Ils vont juste se dire « Ah, oh, elle vient avec sa couleur, sa touch. »
Absolument, c'est ça. Et même souvent, ils adorent. Enfin, l'accent Frenchy, pour les Américains, c'est du nectar pour eux.
C'est vrai.
Oui, bon, en fait, je voyais vraiment le poisson Anne-Claire Méré, voilà, dans son grand et beau bocal. Et je te voyais, foot, le bocal, ce verre, c'était dans l'océan, en fait. Et c'est genre, mais c'est OK, c'est même encore mieux. T'as des coraux, t'as d'autres poissons, enfin, tu vois. C'est que du kiff, en réalité. Et ce que j'aime beaucoup, parce que même hier, dans ta story sur Instagram, j'ai bien aimé ta façon de porter le truc. C'était, bon, c'est un challenge. Et moi, j'adore relever les challenges et les défis, tu vois. Ça, on sent que c'est ton mindset, que c'est ce qui te porte, c'est ce qui te fait grandir. Est-ce que tu l'as toujours eu ?
Oui et non. Parce qu'en fait, c'est drôle cette conversation, parce que je dis souvent à Christian que je ne suis pas une aventurière physique. C'est-à-dire, par exemple, grimper des trucs, tu sais, faire des randonnées, faire des trucs physiques, ça m'angoisse, ça me stresse. Et en même temps, à l'intérieur, je me sens très aventurière. Tu vois, j'ai ce feu de découvrir des parties de moi que je ne connais pas encore, de découvrir la vie. Vraiment, je me vois avec ma machette, tu sais, et Indiana Jones.
C'est ça.
À l'intérieur, oui. Quoi. Donc, j'ai vraiment cette liberté intérieure, cette soif de liberté intérieure qui est très, très puissante. Donc d'un côté, je me sens aventurière et d'un autre côté, pas tellement physiquement dans...
En fait, je te vois vraiment comme une pionnière, tu vois, comme... Mais oui, de ta propre conscience et de la conscience du monde aussi. Mais en même temps, je trouve que là, tu as fait un stage de danse qui avait l'air très, très, très éprouvant sur un mois. Et tu l'as géré, tu l'as mené, c'était mais je sais pas combien d'heures par jour, avec des soirées qui s'étiraient.
12 heures par jour.
et tu vois, quand tu me dis je ne suis pas dans la physicalité, la matière, dans les trucs, enfin je suis désolée, là c'était quand même costaud, tu vois,
c'est vrai.
Tu l'as fait.
C'est vrai, et aussi, Christian, il aime bien me rappeler, mais quand même, on a vécu au Costa Rica, on vit maintenant à Bali, avant je vivais toute seule en Thaïlande, j'ai beaucoup voyagé toute seule dans des pays asiatiques, enfin... Donc, il aime aussi me rappeler que oui, j'ai quand même ce côté aventurière de voyager tout seul, d'être capable de m'installer dans un autre pays pour plusieurs mois ou plusieurs années. Donc c'est vrai, quand même.
Anne-Claire, je me faisais la réflexion il y a quelques temps. Je m'en suis rendu compte sur moi aussi, parce que moi aussi, je suis sur ce chemin d'abondance, d'expansion personnelle, de créer, de proposer, d'apprendre à vendre aussi d'une façon naturelle et décomplexée, tu vois. Et je me suis rendu compte ces derniers mois qu'il y avait un lien entre le fait de générer de l'abondance et l'estime qu'on a pour soi-même. Est-ce que c'est quelque chose que tu as capté aussi ?
Oui, parce que quand on sait ce qu'on a à offrir au monde, alors c'est une évidence, en fait, de fixer des prix justes et de se faire payer pour nos services. Mmh. Et je vois beaucoup de gens, surtout dans les entrepreneurs du bien-être et les coachs, qui donnent des conseils ou qui vont faire des recommandations en santé, etc., sans forcément fixer de cadre ou sans être très clair sur la façon dont ils proposent leurs services. Et donc, c'est comme si c'était toujours un petit peu flou, tu vois, parce qu'ils n'osent pas affirmer pleinement qui ils sont. Mais quand on a conscience de sa valeur et qu'on affirme qui on est, alors les choses sont claires. Et si quelqu'un nous demande un conseil ou quelque chose, alors on va dire « Ok, je veux bien te poser cette question-là juste comme ça, mais si tu veux qu'on travaille ensemble, il faudra fixer un rendez-vous. » Et les choses sont très claires, tu vois. C'est vraiment, il y a une simplicité, c'est limpide.
Absolument.
Il n'y a plus cet entre-deux un peu, un petit peu bâtard, un petit peu inconfortable pour nous et pour l'autre.
Absolument,
finalement.
Oui. Mais oui. Non, c'est chouette. Mais oui, apporter un cadre, en fait, un cadre de référence dans lequel il y a du pricing, il y a un temps qui est limité, s'il y a un compte-rendu, il est fait. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est hyper important, mais ça semble pas naturel pour ce domaine-là, en fait. Parce que, tu vois, quand tu partages des choses... moi, je sais que pendant longtemps, quand j'ai ouvert le podcast et qu'ensuite on m'a fait des propositions, les gens voulaient avoir des rendez-vous avec moi, discuter avec moi. En fait, ça s'est passé de cette façon-là au début. Moi, j'avais l'habitude depuis des années de fournir vraiment du contenu gratuitement, que ce soit sur YouTube, avec ma petite sœur. Pendant longtemps, on avait une chaîne dans laquelle on parlait de bien-être et de santé au naturel, tu vois. Et puis, c'est des heures, puis c'est du montage, puis c'est toute une orga. Et finalement, tu le fais parce que tu as envie de partager. Et le moment où tu dois basculer sur le pricing, t'es un peu tétanisé et tu te dis, mais je l'ai fait pendant plus de 10 ans gratuitement et là, comment je fais pour faire la bascule? Et comment on fait justement pour honorer, pour célébrer ce qu'on partage et se dire, ok, une heure, ça sera tel prix et l'assumer?
Je pense que ça se fait par étapes intermédiaires, tout simplement, step by step. Au début, c'est bien d'avoir conscience de ses compétences et par exemple de lister ses forces, ses compétences, toutes les choses qu'on a à apporter. Ce qui nous permet aussi d'écrire la page de notre site internet, le descriptif de nos offres, etc. Ensuite, on peut prendre un certain nombre de clients sur donation et ou à petit prix. Et là, on doit se mettre d'accord avec soi-même, c'est-à-dire je vais prendre par exemple 10 personnes à ce prix-là ou sur donation. Ou alors sur une période de temps, par exemple pendant le prochain trimestre. Mais après, je dois faire une réunion avec moi-même et faire évoluer ça. Et donc, ensuite, on peut prendre 10 personnes à un autre prix ou avec d'autres modalités, en fait, tout simplement. Et régulièrement évoluer et checker avec soi-même si on est toujours OK avec ça. Et petit à petit, on va avoir beaucoup de retours d'expérience des gens qui ont travaillé avec nous. Et ce retour d'expérience, il vient nourrir notre confiance en nous et l'estime qu'on a de notre travail. Mmh. Et ça nous permet aussi de montrer au monde, hey, regardez, c'est pas juste moi qui dis que ça marche. Les autres aussi disent que ça marche.
Mais oui, c'est hyper important.
Et au fur et à mesure, finalement, en une année de temps, on occupe pleinement sa place avec des tarifs qui sont justes pour nous, par exemple.
Mais oui, c'est vrai, c'est organique en fait. C'est le faire en étant détendu et en ayant à chaque fois ce point d'équilibre où on est validé, on a ce qu'on appelle the social proof, tu vois, de l'extérieur. Les gens valident la qualité de notre travail. Et c'est vrai qu'ensuite, c'est un effet boule de neige et quand ça part, bah, c'est chouette. Quel est ton référentiel spirituel? Est-ce que tu te considères comme un être spirituel? Quelle place a la spiritualité, les rituels, tu vois? Est-ce que tu crois à une Anne-Claire suprême? Est-ce que tu lui demandes de l'aide et de la guidance parfois? Comment ça se passe pour toi, ce rapport-là?
Je parle beaucoup à Dieu, à l'univers, aux forces de la nature. Tu vois, je mets différents mots dessus suivant mon humeur. Et j'ai même une petite boîte à la maison, une petite boîte dans laquelle je mets toutes les choses qui m'échappent. Tu vois, par exemple, si j'ai besoin de la résolution de quelque chose, j'ai besoin d'inspiration, je vais m'en remettre à Dieu. Tout simplement, j'écris un petit truc sur un post-it et puis je le mets dans la boîte. Ou le soir avant de me coucher, je vais écrire sur un post-it, je vais mettre d'abord merci pour tous les cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui, pour l'inspiration et pour l'amour et tout ce que je reçois dans ma vie. Et puis ensuite, je vais demander une guidance, tu vois. Je vais dire, montre-moi comment je peux solutionner ce défi dans ma vie, par exemple. Et j'ai confiance qu'en fait, ça va m'apparaître sous forme de rêve ou que quand je vais me lever, les choses vont être beaucoup plus claires, en fait, parce que je vais avoir eu la visite, tu vois, j'en sais rien, d'un ange, de quelqu'un qui m'explique la nuit comment faire.
Ouais.
Et j'ai pas besoin de m'en rappeler. Juste le matin, je me lève et je me dis, ok, les choses sont plus claires maintenant. Et donc, j'ai beaucoup créé ces espaces de communication, en fait, entre l'invisible et le visible, le tangible. Ce qui a pas forcément été évident pour moi, parce que j'ai pas grandi dans une famille croyante du tout. Et c'est venu au fur et à mesure et je me reconnaissais pas forcément dans toute la spiritualité que je pouvais rencontrer. Enfin, il y a des choses qui m'ont parlé, des choses qui m'ont moins parlé dans le New Age ou même dans les religions. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup voyagé en Asie et beaucoup été attirée par le bouddhisme et des choses comme ça. Donc il y a eu des choses qui ont quand même eu des empreintes en fait en moi. Aujourd'hui, parmi ceux qui me parlent le plus, je dirais Osho. Je lis beaucoup, beaucoup les enseignements d'Osho. J'aime bien ouvrir ses livres qui finalement ne sont pas des livres parce qu'il n'a pas écrit de livres. Il a juste fait des speeches à l'oral et qui ont été retranscrits à l'écrit. Et juste ouvrir n'importe où dans un de ses livres et j'ai toujours le bon message pour moi.
La bonne citation.
C'est juste génial. Je pense qu'en fait, je suis très spirituelle, mais vraiment avec une spiritualité connectée au cœur et connectée à notre essence profonde et à ce que l'âme est venue faire ici et tout ça, sans chichi et sans forcément avoir besoin d'avoir des rituels compliqués ou d'avoir toujours un hôtel partout où je vais, tu vois. On s'installe à la maison il y a une semaine, il n'y a toujours pas d'hôtel à la maison, quoi. Mes affaires, elles sont en bordel, c'est vraiment pas ma priorité.
Oui.
Ça arrivera au bout d'un moment que je vais installer un petit coin super bien pour venir comme rassembler des petites choses que j'aime bien, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, elle est dans mon cœur, en fait. Ma spiritualité, elle est dans mon cœur. Et finalement, il y a cette question que j'aime bien, c'est à qui tu rends des comptes. Et je rends des comptes à la version de moi qui est plus évoluée que moi et qui m'envoie les bons messages. Et je rends des comptes à Dieu, à l'univers, aux forces de la nature, en fait. Et donc, du coup, je les honore. Et j'écoute ce que la vie veut faire circuler à travers moi, comme si j'étais tout simplement une disciple de la vie. Et c'est là où ma spiritualité s'incarne, en fait.
Ça t'arrive de méditer, Anne-Claire ?
Oui, mais de moins en moins. En fait, j'ai beaucoup médité quand je vivais à Paris, et surtout après avoir fait Vipassana pendant mes études de naturopathie. Et puis j'ai fait un cycle MBSR et beaucoup de sophrologie et toute une rééducation du sommeil qui incluait aussi de la méditation, du biofeedback. Donc j'ai beaucoup utilisé tous ces outils-là pendant des années. Et puis au fur et à mesure où j'ai transformé ma vie, c'est-à-dire où j'ai arrêté de faire des boulots qui ne me plaisaient pas, ou vraiment de me suradapter à mes environnements, au fur et à mesure où j'ai honoré plus qui j'étais, habité dans des endroits qui me parlent énormément, où je me sens vraiment bien, en fait, je me rends compte que j'ai moins besoin de faire le calme parce qu'en fait, je suis de plus en plus calme à l'intérieur et je rejoins de plus en plus facilement la source sans avoir forcément besoin de me poser sur un coussin pour le vivre.
Mais oui.
Et ça, c'est juste magnifique parce que je pensais que je devrais toujours méditer une heure le soir pour vider ma tête, etc. Parce que c'était vraiment l'objectif, tu vois. Et vraiment me retrouver dans un espace de béatitude et de tranquillité intérieure. Donc, j'avais besoin de ce temps-là avant. Et aujourd'hui, en fait, non. Plus il y a d'alignement, moins j'ai besoin de me retirer du monde pour connaître cette connexion à la source. C'est génial.
Oui, c'est complètement ça. C'est un peu comme si, tu vois, là, quand tu médites, tu te connectes à une fréquence, à une dimension, et que finalement, à force de méditer, tu te rapproches petit à petit de cette dimension. Ça devient ton état d'être, en fait. Mais tu sens quand tu sors de cette dimension aussi. C'est très intéressant. C'est le goût. En fait, la méditation nous donne le goût de cet espace. C'est des petites drops de miel, comme ça. À un moment donné, t'es dans le pot, et t'es très bien dans le pot, tu vois.
C'est dans cette image.
Mais ouais, c'est un peu comme ça que je le vois et c'est hyper intéressant. Mais le fait d'avoir cette conversation là avec toi, pour moi, on était dans un état méditatif, par exemple, complet, tu vois, d'échange et où je reçois des choses et où... Ouais, c'est très intéressant. Et une spiritualité badass, est-ce que ça a du sens pour toi, du coup ?
Bah oui, forcément. Parce qu'en fait, pour moi, la spiritualité, elle est forcément incarnée. Tu vois, elle est forcément ici, sur le plancher des vaches, et connectée au divin, en fait. C'est les deux. Si on est juste connecté au divin, on est coupé. Si on est coupé à nos racines, en fait, c'est pas durable. C'est comme une échappée, tu vois. On a juste envie de vivre là-haut, perché. Mais si on n'est pas ancré, il y a quelque chose qui manque. Et pour moi, on est des change makers. Tu vois, on est vraiment... Si on est connecté par le bas, connecté par le haut, en fait, on est là pour juste canaliser cette puissance que ça nous permet d'incarner sur la Terre et de faire les grandes transformations qui sont nécessaires. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes comme nous, en fait, et de gens qui décident de se mettre au service du monde avec tout leur cœur, tout leur corps, et d'y aller à fond, 3000%. Et c'est contagieux. En fait, attention, hein, c'est vraiment contagieux.
C'est vrai, mais t'as complètement raison. Et c'est vrai que, ouais, on est des antennes organiques, en fait. On est plantés, on est les... C'est comme si la main de Dieu, c'était l'acupuncteur et nous, on est les aiguilles sur terre, tu vois.
C'est ça.
Et du coup, on rééquilibre et le corps, c'est la terre et nous, on n'est que les petites antennes et d'acupuncture. Et tu parles de l'effet de contagion. Tu connais cette data, on est la moyenne vibratoire des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention, toi, dans ta vie, ton entourage ?
Énormément. Pas au début, pendant les premières années où je me suis reconvertie et tout ça, je me rendais pas compte à quel point c'était important. Et puis quand j'ai commencé à trouver des personnes qui étaient vraiment soutenantes, qui étaient très uplifting en fait, juste des gens qui elles-mêmes travaillaient sur leur mindset et qui elles-mêmes souhaitaient le meilleur pour leur vie et pour le monde, en fait ça a tout changé. Donc j'ai relégué au deuxième cercle les gens qui sont peut-être moins courageux avec leur vie. J'ai arrêté de leur demander leur avis sur les choses que je voulais faire. Parce que ça, je le faisais beaucoup avant. Donc, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Mais en fait, je ne demande plus jamais qu'est-ce que t'en penses à quelqu'un qui ne m'inspire pas, en fait, dans ses choix de vie. C'est-à-dire, maintenant, je demande uniquement à une poignée de personnes que je trouve très inspirantes. Et juste, c'est très nourrissant d'avoir des personnes qui font les meilleurs choix pour leur vie et qui souhaitent le meilleur pour nous. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de fréquenter les autres, mais peut-être qu'avec les autres, on va faire du shopping ou aller au cinéma ou faire autre chose, en fait, que de discuter des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et c'est juste un tri à faire.
C'est vrai que ce n'est pas simple. Et quand on vit cette expansion de conscience et qu'on sent qu'on change dans notre cœur, en nous-mêmes, et que du coup, la matérialité autour de nous aussi change, c'est vrai qu'après, modifier ce club des cinq... Quand il y a l'attachement et parfois un peu de dépendance affective ou « Non, mais c'était mon ami depuis 20 ans, voilà, on était ensemble au collège, au lycée. Oh, » c'est dur. Je sais que moi, j'ai dû couper certains liens, justement, avec des personnes voilà, que je connaissais depuis la troisième parce que ça devenait compliqué. Et je me rappelle d'un moment où je me posais des questions à savoir si cette personne, c'était carrément, je la sorte carrément de tous les cercles, en fait. Et j'avais appelé un ami qui sortait du ashram de Sadhguru dans l'Ontario, je ne sais pas où. Il avait passé 3 mois là-bas à méditer. Et du coup, il sortait vraiment du truc. Ça faisait une semaine qu'il était sorti. Je lui ai dit, écoute, je pense que tu es encore enlightened, hyper connecté. J'ai besoin de ta clairvoyance sur ce sujet. Il m'avait dit un truc tout simple qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a apaisé le cœur. Il m'a dit, tu sais, Amel, dans ta vie, ça fait pas mal d'années que tu investis ton temps et ton argent pour libérer ton karma, pour libérer tes charges, tes lourdeurs, pour désengager des bagages, tous tes extra-bagages. Il m'a dit, tu sais, quand tu es en contact avec quelqu'un d'aussi proche pendant autant de temps, tu prends ses bagages. Donc il m'a dit, si elle ne fait pas sa part, en fait, à un moment donné, c'est à toi de te préserver, en fait, et de respecter tout le travail que tu as fait et que tu es en train de faire. Et ça m'a beaucoup apaisée, quelque part, parce que ça donnait du sens à quelque chose que je sentais au profond de moi. Et ça m'a permis voilà, de me libérer de cette relation. Est-ce que toi, tu as aussi des tips justement pour permettre aux gens de faire ça avec grâce et facilité ?
Il y a une question que j'aime beaucoup me poser, c'est est-ce que cette relation avec cette personne m'aide à devenir qui j'ai envie de devenir ? Et si la réponse est non, en fait, voilà, ouais. le choix est...
C'est radical.
Parce qu'en fait, je sais que je suis là pour changer, pour évoluer, pour grandir, pour devenir celle que je sais que je peux être. Donc, il y en a beaucoup de gens qui disent la meilleure version de moi-même. Mais ce n'est pas vraiment la meilleure, c'est plutôt celle qui a vraiment... en anglais, on dit blossom. Tu sais, qui a fleuri, qui a le plus fleuri. Donc, si je veux honorer cette version florissante de moi, est-ce que cette relation, elle sert cette version-là de moi, où elle la dessert. Et le choix est vite fait. En général, je le sens tout de suite.
Tu sais que blossom, c'est mon mot préféré en anglais. Et il y a 12 ans, après une rupture, j'avais envie de me faire tatouer. J'avais envie de me faire tatouer depuis l'âge de 18 ans, tu vois. Mais c'était mal vu dans l'islam et tout ça. Et à un moment donné, je me fais tatouer. Je me suis fait tatouer le mot blossom. Oh. J'étais pas du tout connectée à la spiritualité. Et je l'ai tatoué ici, en fait, sur la ligne de cœur. Mais sans le savoir, en fait, tu vois. On reçoit nos tatouages, en fait, vraiment comme des petits symboles. Et j'ai compris là, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, et je me suis dit, waouh, mais c'était pas un hasard. Blossom sur la ligne de cœur, tu vois, genre tout est là. Et après, en lisant le docteur David Hawkins avec Force versus, Power versus Force, et tu sais, cette échelle des émotions, il expliquait dans le bouquin que la ligne de cœur, c'est la ligne de courage. En plus, tu retrouves le cœur dans le courage, ouais, un peu, tu vois. Et c'est ce moment où tu décides de plus subir et de créer, en fait. Il faut du courage pour ça. Et c'est le moment où ton chakra du cœur fleurit. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable. Donc, c'est trop marrant que tu utilises ce mot.
Magnifique.
Aussi.
Tu t'es choisie, en fait.
Ouais, à ce moment-là, complètement, ouais. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile de se choisir dans les contextes dans lesquels on grandit, on baigne, que ce soit la famille, la programmation, l'éducation, la religion, tu vois, encore plus. Et j'avais fait un épisode dans lequel je parlais de mon coming out spirituel cette année où j'ai pas voulu faire le ramadan. Et c'est vrai que ça demande du courage, en fait, de l'assumer. C'est quoi, d'après toi, Anne-Claire, réussir sa vie ?
Réussir sa vie, c'est se connaître d'abord, apprendre à se connaître, savoir ce qu'on veut vraiment créer, au-delà des images qu'on a pu voir de ce que les autres ont créé pour leur vie. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est quand même très, très influencé par les images des autres. Et moi, j'y contribue. Hein. Par exemple, la coach qui vit sous les tropiques, je sais que j'y contribue. Je m'excuse pour ça. Mais tu vois, parfois, on a envie de vivre la vie des autres. Et il y a plein de gens qui viennent ici et qui se disent, bah, en fait, j'aime pas les moustiques ou j'aime pas l'humidité. Mmh. Et ils se disent, bah non, en fait, je veux pas vivre la même vie qu'Anne-Claire parce que ça me correspond pas de transpirer du front toute l'année. Alors que moi, en fait, j'adore.
Luisante et brillante.
Donc, c'est vraiment se connaître et savoir ce qui est juste pour soi et puis ensuite y aller. Tu vois, c'est vraiment se donner les chances de pouvoir le créer, malgré les défis que ça représente. Tu vois, les moustiques, la dingue, etc. Ouais. Tout ce qui est possible de croiser.
Le belly-belly.
Voilà, le belly-belly. Exactement.
C'est ça.
Donc, oui. C'est se confronter à la réalité de ces rêves-là. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui rêvent leurs rêves comme des choses hypothétiques au lieu de vraiment y aller et de voir si c'est fait pour eux. Et c'est ça, en fait, réussir sa vie. C'est se mettre dans les circonstances, de voir ce qui nous plaît vraiment et puis de décider d'honorer ce qui nous plaît et de vivre là où on a envie de vivre, de créer l'activité qu'on a envie de créer, créer les relations qu'on a envie de créer, même si elles ne sont pas dans les normes, avec amour, absolument, avec respect et avec... avec la créativité, en fait, qu'on a. Je pense qu'on est venu là pour exprimer une forme de créativité, ouais, chacun, chacune, qui prend des tonalités différentes et qu'il faut qu'on se le permette. Mmh. Donc, réussir sa vie, c'est se permettre la pleine créativité avec ses talents et avec toutes les cartes qu'on a tirées, en fait.
Complètement, oui. Je suis d'accord avec ça. C'est vraiment sortir de la petite boîte. En fait, c'est cette impression d'être venu sur Terre en étant, juste avant, un être totalement illimité, sans limite. Sans interdit, mais toujours dans l'amour, en fait, tu vois. Et de revenir ici dans un truc tout petit, un costume tout serré, en fait, avec des jeux de rôle hyper limités, et de se dire, mais non, je peux très bien être ça, faire ça, puis aller là, et vivre là. Et c'est vraiment cette expression de la liberté. Et justement, Anne-Claire, si tu avais une valeur, une vertu qui te catégorise, ce serait laquelle ?
La liberté, je pense. Ouais. C'est vraiment très, très important pour moi, surtout depuis ces dernières années. Je pense qu'avant, j'avais pas vraiment les yeux ouverts sur ce qui se passait dans le monde, parce que j'avais l'impression d'être libre dans un monde un peu chelou, tu vois, avec des choses un peu incohérentes.
Ouais.
Et puis depuis 2020, j'ai vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de mensonges du monde, et ça a été difficile, en fait. J'ai beaucoup pleuré, j'ai aussi beaucoup essayé de sonner les casseroles, tu vois, pour réveiller les gens et tout. Et je me rends compte que finalement, aujourd'hui, le plus important, c'est d'honorer ma liberté intérieure, de créer ma vie comme je l'entends. Et en le faisant, j'inspire les gens à le faire aussi. Bien sûr, je le fais professionnellement parce que j'ai des programmes, des livres, etc. Mais c'est aussi juste parce que j'incarne, en fait. Ouais. Et juste par les gens que je vais toucher au quotidien, mes amitiés, les gens que je vais rencontrer, mes amours. Et finalement, il y a des répercussions après, et ça se répand dans le monde juste parce que j'incarne cette liberté d'être, finalement.
Ouais. Mais c'est d'ailleurs le moment où je t'ai découvert, moi, sur Instagram. C'était avec les mèmes.
À la période où j'étais à fond pour sonner les casseroles.
Et j'étais là, mais waouh, j'étais hyper surprise. Je me suis dit, elle est géniale. Et moi, c'était plus compliqué à cette période-là de justement sonner les cloches, parce que je travaillais à Radio France, dans la radio de l'État. Et d'ailleurs, en partie, on s'est séparés comme un accord, Radio France et moi, parce que mes stories de l'été 2021 étaient très piquantes, mes stories privées. Pas sur le compte Spiritualista, mais sur mon compte perso. Ouais, j'en voyais quoi.
Mais t'as raison, parce que ça permet de se trouver.
Mais
en fait, c'est ça le truc. C'est « Ah, tu penses comme ça ?» Mais moi aussi, je pense comme ça.
Oui, mais ouais, mais complètement. Mais c'est pour ça que les gens, parfois, n'osent pas montrer leur vraie couleur. J'ai dit, mais si, mais fais, parle,
ça explique fait du tri. Des choses. Mais... ça fait du tri, absolument. Ça permet aux gens de nous trouver.
Et ça, c'est génial. Vraiment, c'est top.
Spiritualista.
C'était par rapport à la manifestation. Je me demandais si tu as une certaine forme de discipline. Est-ce que tu fais du scripting? Est-ce que tu développes un tableau de visualisation? Est-ce qu'il y a des mots, parfois, que tu mets en évidence pour te souvenir et te connecter à la vibration de certains mots? Est-ce que comment tu procèdes pour manifester?
J'ai plusieurs choses. Donc, on a des tableaux de visualisation à la maison avec Christian qu'on a fait pour créer notre vie future. Et on l'a mis dans des cadres et tout. En fait, c'est sérieux, quoi.
C'est sérieux, c'est très sérieux, la visualisation.
Et on fait ça régulièrement. On fait ça une ou deux fois dans l'année. Ensuite, j'écris mes objectifs souvent. Donc, une ou deux fois par jour. Donc, matin, soir. Ah, oui. Ça dépend parfois que le matin ou que le soir ou parfois les deux. Si je ne l'écris pas parce que je ne peux pas à ce moment-là, en fait, je vais me connecter à ces objectifs de ce que j'ai envie de créer. Et je me connecte aussi à comment je vais me sentir quand je l'aurai créé. Mmh. Ce n'est pas juste, je veux, j'en sais rien, 1 million d'euros. Non, mais en fait, pourquoi je veux 1 million d'euros, en fait? C'est comment je vais me sentir quand je l'aurai accompli, et c'est quoi, en fait? Qu'est-ce que ça va nourrir chez moi, en moi? Et qu'est-ce que ça va ouvrir comme porte intérieure, en fait? C'est ça qui est important. Et puis, j'utilise tous mes orgasmes. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai un orgasme, en fait, je fais monter l'énergie, tu vois, en haut. Et puis là, il y a comme un feu d'artifice au-dessus de ma tête et je me connecte à un objectif que j'ai. Et je pense que c'est une énergie la plus puissante possible, en fait. Et j'utilise les miens, mais j'utilise aussi ceux de mes partenaires. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, quand ils sont au climax, je channel leur énergie, tu vois, et hop, je l'envoie dans l'univers. Et je leur ai dit aussi de faire la même chose, ce qui n'était pas du tout naturel pour eux. Mais maintenant, ils utilisent aussi tous leurs orgasmes.
Mais Anne-Claire, mais merci de partager cette information dans mon podcast. C'est un truc que je partage avec mes amis parce que j'avais vaguement l'intuition que c'était puissant et que c'était important de le faire. Et là, le fait que tu le dises, tu vois, mais c'est ce que j'aime chez toi, c'est que tu balances des choses incroyables, des golden nuggets comme ça, l'air de rien, avec ton petit verre de coco. Mais c'est hyper puissant en réalité.
C'est hyper puissant et en même temps très simple en fait. C'est ne gâchez pas vos orgasmes.
Ben ouais, c'est du gâchis. Sinon. On ne peut pas revenir en arrière. J'ai pas un cumul.
On ne peut pas, mais tu peux en avoir plein d'autres dans cette vie. Fonce.
Ok. Et donc ça, c'est vraiment voilà, quelque chose que tu manifestes. Tu utilises les orgasmes pour manifester ce que tu as envie de manifester sur Terre, en fait.
Tout à fait.
Sur tous les plans. C'est zéro limite.
Zéro limite.
J'adore. Ça, c'est un vrai secret de goddess, ça. Non, mais vraiment. Hein,
c'est et ça fait longtemps. Puissant. Ça fait des années. Donc, si vous demandez comment j'ai créé cette vie de rêve, peut-être qu'en fait, c'est ça que vous devriez garder.
Une clé, voilà, c'est une celle-ci. Clé. Et comment t'as découvert ça?
Je pense que ça devait être des lectures, tu vois. J'ai dû découvrir des choses sur la manifestation et puis ils ont dû le citer. Ouais. Et puis moi, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est quand même une force de vie qui est extraordinaire. En fait, à chaque fois, on touche la magie. On est vraiment connecté à la source.
Ouais.
Et j'ai toujours eu une sexualité très positive, joyeuse, pas tellement blessée, en fait, vraiment dans la joie et dans la connexion. Donc pour moi, ça a été quelque chose d'assez évident et d'assez facile de me dire, mais c'est vraiment magique, il faut que je l'utilise, cette magie. Et donc ça a été assez facile et assez évident, en fait.
Je pense que c'est hyper important ce que tu as précisé sur le côté joyeux de l'exploration sexuelle. Hyper important. Je pense que c'est quelque part ce qui crée, tu vois, ce fameux... ce vortex lumineux qui connecte aux sphères supérieures à d'autres dimensions, parce que c'est vrai qu'au travers de la sexualité, la femme devient un portail qui intègre, tu vois, un nouvel être humain sur Terre, donc c'est hyper puissant, donc on est vraiment connecté. Mais depuis l'espace de la joie, j'ai l'impression que le vortex est plus lumineux et plus ascensionnel, que voilà, que des choses denses et lourdes, et je sais que je travaille souvent sur les chakras du bas quand j'accompagne des femmes, et c'est vrai que la libération des tensions, des peurs, des mémoires, les siennes et puis celles de toute sa lignée de femmes, c'est des choses qui sont vraiment là, ancrées. Et j'ai l'impression que ça crée vraiment un blocage, un barrage à ce pouvoir de manifestation au travers de la sexualité.
J'en suis sûre, et je pense que ça fait partie des grandes manipulations de ce monde, tu ouais. vois, toutes les distorsions en lien avec la sexualité. C'est vraiment des choses qui nous maintiennent dans une forme d'asservissement et de non-exploitation de notre puissance personnelle, en fait. Et c'est vraiment difficile à voir quand on voit toute la souffrance qu'il y a dans le monde.
Ouais.
Mais il y a de plus en plus de femmes libérées et heureuses, connectées à la source, qu'ils partagent avec des approches différentes, avec des mots différents. Moi, je ne parle pas directement de sexualité, mais je parle d'empuissancement.
Ouais.
Il y a des femmes qui vont être beaucoup plus directes que moi.
Mmh.
Et je sens qu'en fait, on a notre carte à jouer pour vraiment aider toutes les femmes à réaliser qu'en fait, c'est toujours là, c'est toujours à ma portée. C'est juste à moi de reconnecter et de faire le chemin pour moi et avec moi.
Mmh.
Et pas forcément tout de suite avec un partenaire.
Ouais.
Après, on peut intégrer un partenaire quand on a confiance en eux, quand on a confiance en la vie et qu'on sent que c'est juste.
Ouais.
Mais c'est d'abord entre soi et soi.
Ah, ça me touche, ce que tu dis. Vraiment, c'est tellement beau et puissant en même temps. Et on sent vraiment, tu vois, cette énergie du vrai féminin sacré, tu vois, qui est dans la douceur, la sororité, la reconnexion à soi. Puis aussi cette puissance personnelle incroyable que toutes les femmes incarnent ici sur Terre. Il faut juste s'en souvenir et bosser dessus.
Oui. Peut-être qu'une clé, moi, qui m'a beaucoup aidée là-dessus, ça a été me connecter à la symptothermie.
Ouais.
Quand j'ai décidé d'arrêter la pilule, quand j'ai étudié la naturopathie et que j'ai compris que c'était pas ok de maîtriser mes cycles comme ça avec quelque chose de chimique, j'avais très peur parce que moi j'ai jamais voulu d'enfant et je voulais vraiment pouvoir contrôler les naissances. Et c'est juste extraordinaire de découvrir que en fait, je peux tout à fait maîtriser mon cycle au naturel. Et c'est plus quelque chose que je dois porter toute seule sur mes épaules parce que je peux aussi intégrer mon partenaire dans la compréhension de ce cycle.
Mm.
C'est pas juste moi, c'est nous. Et ça a été une grande libération pour moi et une grande reconnexion à mon féminin. C'était de 2012 et depuis, vraiment, ça m'a porté. Donc peut-être ça peut être une porte d'entrée pour les femmes qui se posent la question de comment faire, se poser des questions à travers la reconnexion au féminin avec le cycle.
C'est marrant, à peu près à la même période, je me posais cette question parce que j'avais compris que les hormones chimiques bouleversaient absolument et ma libido, et mon rapport aux émotions, enfin, ça me rendait colérique, j'avais un appétit d'ogre, donc je prenais du poids. Bref, c'était vraiment très compliqué et j'ai manifesté une conversation avec une ancienne collègue Radio France qui m'a parlé du Lady Computer, un petit boîtier, c'est un boîtier allemand, c'est une boîte allemande qui crée ça. Ça coûte un peu cher, mais on peut payer en plusieurs fois, c'était autour de 500 euros. Mais c'est garanti 10 ans en fait. Et c'est grâce à ce moniteur en fait où tu prends ta température basale, tu vois, le matin, tu connais ?
Ouais.
Ouais. Et du coup, tu as la possibilité de suivre ton cycle et de te rendre compte voilà, quels sont les 3-4 jours, moi c'était 4 jours d'ovulation dans le mois. Et une fois que tu as capté quand ils sont, où ils sont, tu fais hyper gaffe ces moments-là. Et tout se passe super bien en fait. Ça c'était fou. Parce que comme tu le dis si bien, j'ai compris. Je me suis reconnectée à mon cycle et j'ai découvert voilà, comment je module, comment je me sens par vagues. Et c'est aussi ça le respect et l'estime pour soi-même en fait, c'est respecter ce cycle-là.
Complètement. Et puis il y a une grande puissance à travers notre cyclicité.
Mmh.
Et si on honore tout ça, on sait quand est-ce qu'on peut créer, quand est-ce qu'on peut se reposer, quand est-ce qu'on est plus inspiré et quand est-ce qu'on est... horny.
Oui, complètement.
En fait, tout.
Tout prend du sens, en fait. On comprend et on sait et on est connecté au vivant en soi. Et c'est magnifique, en fait.
Ouais.
Merci pour cette conversation, Anne-Claire.
Avec joie.
C'est un délice.
Merci à toi pour tes questions et ta curiosité et aussi de transmettre aux femmes toutes ces clés parce que c'est vraiment précieux. Et on nous voit comme des passeuses de lumière, en fait, les unes avec les autres. Et on est une grande toile à travers le monde. Merci du fond du cœur.
Merci, Anne-Claire.
Spiritualista.
Si tu as aimé cet épisode autant que moi, n'hésite pas à le partager avec les personnes que tu as envie de voir briller. Pour ne rien louper de l'actualité de mon invitée Anne-Claire Méret, je te recommande de la suivre sur Instagram, Anne-Claire
Méret ou sur son site internet anneclairemeret.com. N'hésite pas au passage à me laisser 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Spotify ou Apple Podcast, ça me fait toujours plaisir. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain Solo Time. Temptations, it's knocking on your door and you're waiting on me, baby, on me. Won't you hold me close, baby? I'll go wherever you go, even if it means that I'm on the road tonight. Not done.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.